Chapitre 1. Quelles sont nos aspirations les plus profondes? Qu'est-ce qui compte vraiment dans l'existence? Qu'est-ce qu'on identifie au fond de soi comme essentiel? Il doit bien y avoir, à l'intérieur de nous, quelque chose qui nous anime, une direction qui s'impose et qui donne un sens à chacun de nos pas. Vivre, ce n'est pas se contenter d'errer au gré des rencontres et des circonstances, de bricoler comme on le peut au jour le jour. Je ne veux pas dire qu'il faut décider dès le matin au réveil que l'on va changer le monde, mais il me semble essentiel de voir une certaine continuité, une progression dans ce que nous souhaitons accomplir par-dessus tout dans notre vie. Certains n'aiment pas l'idée de construction perpétuelle de soi. Pourtant, mois après mois, année après année, il est possible de se construire. Pas pour satisfaire son ego, mais pour devenir un être meilleur, plus altruiste et plus éclairé. On ne peut pas décider de but en blanc qu'on va être à 100% au service des autres. Il faut prendre le temps d'acquérir la capacité de réaliser cet idéal.
Ce qui nous anime. À côté des saines aspirations qui nous invitent à aller de l'avant, à progresser toujours, traîne une tonne d'ambitions égoïstes qui nous aliènent et nous font souffrir. Spinoza, dans son Éthique, distingue clairement les désirs adéquats, ceux qui naissent dans le fond et découlent de notre nature, des désirs inadéquats, que nous importons du dehors. La publicité, en excitant 1000 convoitises, en livre un parfait exemple. Distinguer en soi ce qui relève du désir adéquat ou pas est un exercice très libérateur. Si je regarde les attentes qui tissent ma vie, je débusque ce besoin farouche de rentrer dans le moule, de faire tout mon possible, quitte à m'épuiser, pour imiter les autres. Grâce à une ascèse, à des exercices spirituels, je commence à discerner les influences, les déterminismes qui pèsent sur moi. C'est presque un jeu que de considérer chaque désir qui traverse l'esprit et de voir où il puise son origine. La liberté participe de cet exercice. Et chaque instant de l'existence peut devenir l'occasion d'un affranchissement, car on ne naît pas libre, on le devient.
La question de mes aspirations les plus profondes me met à cet instant un peu mal à l'aise. Pendant longtemps, j'ai plutôt eu le sentiment d'être sur une trajectoire de survie, essayant d'aller vers ce qui me faisait le moins souffrir, en m'efforçant de ne pas non plus faire souffrir les autres. C'était plus une règle intuitive qui régissait ma façon d'être qu'une aspiration ou un idéal conscient. De ce fait, il est assez logique que je sois devenu médecin puisque, au fond, diminuer la souffrance des autres me donnait une sorte de cadre social qui correspondait à ce vers quoi j'avais inconsciemment envie d'aller. Avec le temps, je commence à être capable de plus de discernement. J'ai longtemps vécu dans une quête de sécurité. Je voulais que ma famille ne soit pas dans le besoin matériel, une crainte probablement héritée de mes parents qui venaient de milieux pauvres. Je voulais protéger les miens et sans doute me protéger moi-même. Mais ce n'étaient pas des aspirations très nobles, et sans doute le métier de médecin m'a-t-il aidé à dépasser cette seule motivation. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à dire que mon aspiration profonde est vraiment et seulement d'aider les autres à moins souffrir. Je n'arrive pas à voir si c'est issu du fond de moi-même ou si c'est venu de l'extérieur. Je ne voudrais surtout pas me faire passer pour une sorte de pseudo-saint.
Il y a en l'homme une mystérieuse capacité à se tromper lui-même et à s'auto-illusionner. C'est hyper honnête de reconnaître que nos désirs ne sont pas toujours très nets et que parfois, en prétextant sauver les autres, nous recherchons avant tout de la reconnaissance, un moyen de panser nos blessures. Il y a des tonnes d'influences qui modèlent nos actions et nos comportements, et même notre manière d'envisager le monde. Si je regarde mon parcours, je dépiste beaucoup d'instants où, me croyant totalement libre, je n'ai fait que me leurrer. En regardant d'un peu plus près mon intérêt pour la vie spirituelle, je décèle surtout une immense peur de souffrir. En effet, au début, j'étais un peu comme un naufragé qui chercherait une bouée de sauvetage. Au fil du temps, cette motivation principalement centrée sur moi-même s'est dilatée et je commence à m'ouvrir à l'autre.
Quand j'étais à l'Institut Pasteur, j'avais un collègue, Ben Shapiro, avec qui je partageais une table de travail. Et on avait de temps en temps des discussions sur la vie. Nous ne savions pas ce que nous voulions faire vraiment dans l'existence, mais nous savions ce que nous ne voulions pas. Une existence insipide qui n'aurait ni sens ni utilité, qui ne susciterait en nous aucune joie ni aucun enthousiasme au jour le jour. Il est évident que le premier but de tout le monde est de rester en vie. Il y a des moments ou des endroits du monde où c'est même une priorité absolue, parce qu'on est confronté à la guerre, à la famine, aux épidémies, aux catastrophes. Mais quand on ne se sent pas immédiatement menacé, bien que l'impermanence fasse son chemin et qu'on ne sache jamais ce qui va se passer le lendemain, on devrait se dire qu'on ne va pas simplement tuer le temps et passer sa vie à la gaspiller. On devrait avoir en vue un épanouissement, une forme d'accomplissement. Personnellement, je me suis toujours demandé « Être heureux, c'est quoi ?» Accumuler les plaisirs ? Trouver une satisfaction plus profonde ? Comprendre comment fonctionne mon esprit ? Apprendre à être meilleur avec les autres ? Ça revient pour moi à me poser la question « Qu'est-ce qui compte le plus dans ma vie ?» Je dirais aussi, comme Alexandre, quels sont les désirs qui viennent du plus profond de moi et quels sont ceux qui me viennent de l'extérieur, qui me sont imposés ou insidieusement suggérés, comme c'est le cas avec les paillettes de la société de consommation. Je me rappelle un ami tibétain qui me disait un jour, à Times Square, à New York, au milieu des enseignes lumineuses qui attirent en permanence le regard, « Ils essaient de voler mon esprit ». À un moment donné, indépendamment de toute influence extérieure, on doit pouvoir se demander « Qu'est-ce qui en vaut vraiment la peine ? Qu'est-ce qui me permettra de penser à la fin de l'année que je n'ai pas perdu mon temps ?» On peut se poser cette question régulièrement, et quand, 20 ans plus tard, on regarde en arrière, on devrait avoir le même sentiment que le paysan qui a fait de son mieux pour bien cultiver son champ. Même si les choses ne se passent pas toujours comme on l'espère, on devrait pouvoir se dire « Je n'ai pas de regrets, parce que j'ai fait tout ce que je pouvais dans les limites de mes capacités. »
Quand Patrick Modiano a reçu le prix Nobel, dans son discours de réception, il a dit en substance « J'étais le premier surpris en lisant les articles me concernant, que des personnes extérieures voient une cohérence dans mon œuvre, alors que, en tant qu'auteur, je suis comme un automobiliste qui roule dans la nuit et qui ne voit pas plus loin que le faisceau de ses phares. Son but est de rester sur la route, de ne pas dépasser la vitesse prescrite, de ne pas écraser les biches qui traversent. C'est un peu comme cela que je vois mon propre fonctionnement. Fais tout le bien et le moins de mal possible aux autres et à toi. Pour le reste, j'ai certes l'impression qu'à certains carrefours, j'ai choisi où aller de manière délibérée. Ce n'est pas juste le hasard qui m'a fait partir à droite ou à gauche, mais je ne me sens pas capable d'en dire beaucoup plus. En tout cas, rien qui relève chez moi d'une vision ancienne ou d'un projet de vie élaboré et structuré.
Le chemin est le but. Je me rappelle avoir rencontré au Canada un groupe de jeunes qui sortaient de l'université. Pendant 6 mois, ils avaient vu des conseillers professionnels et remplis des questionnaires, on les avait envoyés à droite et à gauche. Mais comment orienter son existence avec des questionnaires et en suivant les conseils de gens qui vous connaissent à peine ? Je leur ai dit « Pourquoi n'allez-vous pas vous asseoir un moment au bord d'un lac, tout seul ou avec quelqu'un que vous aimez bien ? Arrêtez de remplir des questionnaires, fermez votre ordinateur, demandez-vous ce que vous avez vraiment envie de faire dans la vie et laissez la réponse monter du fond de vous-même. La longueur du périple ou ses difficultés ne sont pas un problème. Quand on voyage dans l'Himalaya, tout n'est pas toujours facile. Parfois il fait beau, parfois le temps est exécrable. Les paysages peuvent être sublimes, mais on peut aussi être arrêté par un ravin ou patauger dans une jungle marécageuse au fond d'une vallée tropicale. Pourtant, chaque pas nous rapproche de l'endroit où nous voulons aller, et cela nous inspire.